Europa Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 16h à Dakar, 17h à N'Djamena. Bienvenue dans notre journal d'information. Aujourd'hui, dans l'actualité africaine, au Tchad, les écoles et universités de N'Djamena sont fermées jusqu'à nouvel ordre, a rapporté l'AFP. Cela fait suite à une manifestation violente d'étudiants contre le port du casque obligatoire, qui a fait au moins un mort ce lundi, selon le gouvernement tchadien. Depuis le 1er mars, un arrêté du ministère de la Sécurité et de l'administration du territoire oblige les motocyclistes à porter un casque. Les étudiants qui dénoncent l'augmentation du prix des casques depuis l'entrée en vigueur de cette mesure sont descendus dans la rue lundi pour manifester. Au Mali, la famille de deux mineurs arabes lynchés à mort à Gao, dans le nord du pays, par la foule qui les accusait d'être des poseurs de bombes, a accepté les condoléances présentées en personne par le Premier ministre, Jean-Roger Bion.
Le gouvernement n'a pas encore lavé de tout soupçon les deux jeunes lynchés le 7 mars, quelques heures après l'attentat anti-occidental à Bamako. Hier, le premier ministre Modibo Keïta est allé sur place à Gao pour condamner fermement cette justice expéditive. Selon un membre de son entourage, ces deux jeunes gens appartenaient à la famille de plusieurs responsables soutenant Bamako contre la rébellion, dont l'un, Mohamed Ould Takiou, a affirmé à l'AFP qu'ils avaient été confondus avec des poseurs de bombes et qu'ils avaient été victimes d'une bavure. Le porte-parole du gouvernement, Choguel Maïga, avait annoncé lundi l'ouverture d'une enquête. Lors de cette rare et brève visite à Gao, Modibo Keïta a rencontré des notables, des responsables administratifs et des parents des deux jeunes. Leurs familles ont précisé avoir accepté les condoléances du gouvernement, car selon leur expression, personne n'a le droit de se faire justice lui-même.
En Guinée, le pouvoir et l'opposition affichent leur désaccord au lendemain de l'annonce des dates des prochaines élections présidentielles et locales. Le premier tour de la présidentielle est fixé au 11 octobre 2015, tandis que les locales seront organisées fin mars 2016. L'opposition, qui exigeait l'organisation des élections locales avant la présidentielle, est fondamentalement opposée à ce calendrier. Pour la majorité présidentielle, ce sont des raisons légales et techniques qui empêchent que les élections locales se tiennent avant 2016. Le chef de l'État, Alpha Condé, élu en 2010, avait assuré à plusieurs reprises que la présidentielle se tiendrait bien en 2015, alors que l'opposition le soupçonnait de vouloir se servir de l'épidémie d'Ebola, qui a fait plus de 2100 morts dans le pays, pour se maintenir au pouvoir au-delà du terme de son mandat. Un élément de l'ex-coalition Séléka et ancien ministre de Michel Diotodia, le général Mahamat Ousmane Mahamat, a été arrêté hier à Bangui et placé en garde à vue au service des recherches et investigations. Beaucoup d'armes et de munitions de guerre ont été trouvées en sa possession au moment de son arrestation. Réaction d'un ancien ministre du gouvernement Diotodia, Christophe Gazambetti, au micro de notre correspondante à Bangui, Melvin Aurélie Coudreau.
Ça fait des mois qu'ils se baladent avec de l'armement que même la gendarmerie nationale n'a pas. Et on ne comprend pas pourquoi aussi bien les forces multinationales sur le territoire national n'arrêtent pas ce monsieur. On ne fait que l'accompagner. Il amène l'insécurité au kilomètre 5 où il est parti. Quand il sort, qu'il va dans les stations, il bloque les stations avec 10 gardes-corps armés de fusils, d'assauts et de l'armement lourd, alléguant que c'est pour sa sécurité. Dans quelle république vous avez vu ça? Je pense que le gouvernement et l'État ont pris ses responsabilités en fonction de ses prérogatives régaliennes.
Voilà, c'était Christophe Gazambetti, l'ancien ministre du gouvernement Diotodia, au micro de Melvin Aurélie Caudreau. En Tanzanie, plus de 40 personnes ont péri mercredi dans le centre du pays dans la collision entre un bus et un camion contenant un conteneur, selon un communiqué de la présidence. En Ouganda, le Parlement a ordonné le remplacement de tous les journalistes couvrant depuis plus de 5 ans ses activités, s'attirant mercredi les critiques de médias qui s'estiment victimes d'une tentative de musellement. Enfin au Niger, 170 des 220 salariés d'Areva sont sur le pavé. La multinationale française les a licenciés dans le cadre d'un plan social sur le chantier de la mine d'uranium Imamourer. Dans le nord du pays, un chantier suspendu depuis août dernier.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Irak, l'armée et les miliciens chiites affirment ce mercredi être entrés dans la ville de Tikrit aux mains du groupe djihadiste de l'État islamique depuis juin de l'an dernier. Les précisions de Jacques Aristide.
Des combats difficiles, mais les troupes irakiennes ont pu pénétrer dans le quartier de Qadisiyya et ont pris le contrôle de l'hôpital militaire de Tikrit, d'après un haut gradé des forces gouvernementales. Après avoir tenté d'entrer dans la ville à maintes reprises ces derniers jours, l'avancée des soldats irakiens aux côtés des unités de mobilisation populaire, notamment composées de combattants chiites, est lente, d'après le même militaire, car le terrain, dit-il, est piégé avec des bombes placées autour de la ville et des snipers de l'État islamique. Environ 30 000 soldats sont déployés dans le cadre de cette offensive de l'armée irakienne, laquelle est encadrée par des conseillers iraniens. Ailleurs dans le pays, l'État islamique n'en démord pas. Le groupe a mené ce même mercredi une attaque coordonnée à Ramadi dans l'ouest de l'Irak avec 7 attentats suicides à la voiture piégée. Au moins 10 personnes ont été tuées et 30 blessées selon les premiers bilans. Ramadi, chef-lieu de la province d'Al-Anbar, est l'une des bases de la fulgurante percée des djihadistes en Irak. Depuis des mois, les troupes irakiennes tentent de les en déloger mais n'y sont pas encore totalement parvenues.
Selon l'ONG Physicians for Human Rights, ou Médecins pour les droits de l'homme, le régime syrien a tué plus de 600 personnels médicaux depuis le début du conflit en 2011. Selon leur rapport, les forces de Bachar el-Assad ont systématiquement ciblé les hôpitaux, les cliniques et les personnels médicaux depuis 4 ans, pour un total de 233 attaques contre 183 hôpitaux et cliniques. Certaines attaques ont été menées avec des barils d'explosifs. Selon Erin Gallagher, le directeur des enquêtes, le gouvernement syrien a même eu recours aux arrestations en salle d'urgence et à la torture et aux exécutions de médecins qui essayaient de soigner les blessés ou les malades. Ici, aux États-Unis, les législateurs de l'Utah ont approuvé une loi qui permettrait à un condamné à mort d'être tué par un peloton d'exécution si les médicaments nécessaires aux injections létales ne sont pas disponibles. Camille Grosdidier.
Le texte qui a été approuvé par le Sénat de l'État doit être transmis au gouverneur de l'État, Gary Herbert, qui devra le promulguer. Les partisans de la mesure affirment que la mort par peloton d'exécution est une façon plus humaine d'exécuter un condamné à mort qu'une injection létale. D'autant que les États-Unis souffrent de pénurie des médicaments nécessaires à ces injections. Récemment, plusieurs détenus d'État tels que l'Oklahoma, l'Ohio ou encore l'Arizona ont subi des tentatives d'exécution douloureuses suite à des injections létales bâclées à cause notamment de nouvelles combinaisons de médicaments. Mais les critiques font valoir que la méthode du peloton d'exécution est un pas en arrière qui rappelle le Far West.
Suite du conflit en Ukraine, les États-Unis vont envoyer des drones d'observation Raven et 230 véhicules de transport Humvee, dont 30 blindés, a confié un responsable américain sous couvert d'anonymat à l'AFP. Mais sans préciser le calendrier de ces envois, les États-Unis ont déjà envoyé d'autres équipements militaires non létaux à l'Ukraine pour l'aider dans ses combats contre les séparatistes pro-russes, comme des radars anti-mortiers ou des lunettes de vision nocturne. La Maison-Blanche, qui soutient le régime de Kiev, n'a pas encore pris de décision quant à l'envoi d'armes létales, comme les missiles anti-blindés réclamés par l'Ukraine. Plusieurs hauts responsables américains de la défense se sont prononcés en faveur de tels envois, mais des alliés des États-Unis au sein de l'OTAN, comme l'Allemagne et la France, s'opposent à l'envoi de tels équipements, redoutant une escalade du conflit. Et pour terminer, toujours ici aux États-Unis, le nombre de groupes d'extrême droite, nourrissant généralement des idées racistes, a diminué de 17%. L'année dernière, en revanche, la violence extrémiste ne baisse pas, en raison notamment d'actes perpétrés par des loups solitaires. Les extrémistes abandonnent ces groupes pour se réfugier dans l'anonymat, ce qui permet d'atteindre un public très large selon un rapport de la Southern Poverty Law Center. Bon après-midi à l'écoute de la VOA. Soyez au